Bonjour Edgar.
Bonjour Étienne.
Bienvenue à l'Académie des sciences.
Merci.
Asseyons-nous et discutons. Je suis bien content de parler avec toi aujourd'hui. On va parler d'histoire, de sciences humaines, d'informatique. Parce que quand même, il y a 50 ans, il n'y avait pas vraiment d'informatique développée. Et pourtant, tu vas nous expliquer que la collaboration internationale pouvait permettre de faire des progrès en sciences humaines.
Exact. C'est justement un des points intéressants, je trouve, de cette affaire. C'est la collaboration internationale, et dans ce cas de la franco-états-unienne, se développe à partir de volontés individuelles et collectives de travailler ensemble. Mais il y a tout un tas de dimensions technologiques, matérielles et techniques qui viennent structurer, on va dire, la façon par laquelle la collaboration se développe.
Mais il y a 50 ans, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur, ou en tout cas des choses très primitives, non ?
Primitives, ou en tout cas des choses énormes, installées dans ce qu'on appelait des centres de calcul, qui faisaient du coup la taille de...
De cette pièce, voilà, même plus haut, oui.
Plusieurs pièces comme celle-là.
Comment est-ce que... On a pu faire un travail historique, il y a 50 ans, avec ces ordinateurs extrêmement primitifs. Et donc, quel but, quel projet de recherche à l'époque ?
Alors, un des cas auxquels je me suis intéressé beaucoup, c'est un projet qu'on a appelé l'enquête sur le catastrophe florentin de 1427, qui est une sorte de monument d'archives qui concerne plus de 260 000 personnes au milieu du 15e siècle, du coup, à Florence, qui est une sorte de recensement, en fait, qui donne des informations sur toutes les personnes de Florence et sa région. Et du coup, ce qui a intéressé les historiens à ce moment-là, et notamment David Early, qui est un historien américain, et Christian Clapisuber, qui ont créé cette équipe à la fois pluridisciplinaire et entre les deux continents, c'était de croiser les données économiques et démographiques.
D'accord. Donc il y a d'abord un travail de rangement matériel font des archivistes.
Il y a un travail d'archiviste. Et en fait, du coup, il y a une collaboration entre archivistes, historiens, photographes, informaticiens... et des entreprises de perforation privées.
Et ça, c'est fait manuellement. C'est une personne qui lit le papier et qui dit « Tiens, il avait trois chiens ».
Oui, c'est ça, exact. D'accord. Donc ça, c'est des gens qui lisent les sources et qui remplissent des grilles. Et ces personnes, ce sont souvent des petites mains, et d'ailleurs souvent des femmes.
Comment on copiait les données dans des ordinateurs ? Il n'y avait même pas beaucoup de langage de programmation à l'époque.
L'entrée des données et des programmes suppose tout un tas de remédiations, en fait, d'opérations de remédiation. À partir de la source jusqu'à la carte perforée, qui est le support d'entrée des programmes et des données.
Un centre de calcul, c'est gros, mais ça coûte aussi beaucoup de dollars, j'imagine. Et les dollars sont aux États-Unis, sûrement.
Oui, alors c'est en effet un des points qui structure complètement le travail entre les équipes américaines et françaises. Il y a cette infrastructure très chère, très coûteuse, très lourde aussi, parce qu'il y a tout un tas d'échelons administratifs, on va dire, à passer pour avoir le droit d'utiliser les ordinateurs. Et tout ça, ça va structurer complètement le travail entre les équipes américaines et françaises, et notamment à travers la question de qu'est-ce qu'on fait, quels programmes on produit, comment ces programmes peuvent être utilisés à la fois dans le centre de calcul à Orsay, à côté de Paris, et dans le centre de calcul aux États-Unis. Et toutes ces questions, elles vont obliger les historiens, en fait, à définir en amont, très finement, les questions qu'ils veulent se poser et comment les données sont entrées en machine.
Donc ça met en jeu plein de professions différentes, mais aussi plusieurs pays.
Oui, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que David Early crée une collaboration avec Fernand Braudel et Manuel Leroy Ladurie et se crée comme ça un collectif entre trois pays, en fait, donc les États-Unis, où il y a les équipes de David Early et un centre de calcul qui est associé au projet. La France et Paris en particulier, où il y a une équipe dirigée par Christian Clapisuber. Et l'Italie, où il y a à Florence et aux archives, voilà, à la fois des étudiants qui s'occupent de dépouiller les archives, des photographes qui s'occupent de faire des photos pour microfilmer les documents, des archivistes qui aident à collationner, etc.
Quand on t'écoute, on a vraiment le sentiment que... Tout ce que nous discutons là a des racines très anciennes sur l'intelligence artificielle, les humanités numériques. Tout ça est très, très ancien, n'est-ce pas ?
Absolument, oui. Mais en fait, les questions fondamentales, je trouve, restent les mêmes. C'est-à-dire comment on peut adapter ou tordre des machines de calcul à des questions scientifiques et des programmes scientifiques qui sont extérieurs ou différents de ce que ces machines visent à faire au départ. Comment les données peuvent être... réutilisées, circulées, ouvertes, etc. Et comment ça peut durer dans le temps, parce que c'est une des grandes questions aujourd'hui, c'est comment on pérennise toutes ces données et toutes ces recherches.
Et à merci Edgar, tu m'as fait sortir de mes terrains de jeu habituels, et je pense que les sciences humaines peuvent nous donner de bons exemples pour les sciences dites dures.